maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est en compagnie de Cédric Comon de la maison d'édition de Repop Productions que nous nous retrouvons en face d'une horde de zombies. Bonjour Cédric.
Brains.
Voilà, le ton est donné. Nous nous rencontrons un petit peu avant Essen, comme ça nous permet d'être un peu plus à l'aise et ne pas avoir le brouhaha. On va parler de City of Horror, qui est la toute dernière sortie de Repop Prod.
La toute future sortie.
C'est vrai, mais bon, en fait, là, je l'ai devant les yeux, donc ça me donne l'impression que c'est déjà sorti, mais c'est pas vrai.
Ah non, c'est pas encore vrai.
Mais donc, c'est une sortie SE.
Absolument, donc c'est notre grosse sortie de SN cette année, où on espère que City of Horror étant un jeu vraiment orienté vers les joueurs, on n'est pas sur du public familial, SN nous paraissait le bon endroit pour le sortir.
Alors, on est dans cette fameuse vague zombie. Alors, la première question qu'on a envie de dire avant de parler du jeu... 2012 est une année zombie. Est-ce que vous le sentiez ou est-ce que c'est le planning qui a fait que tout d'un coup il y ait une série de jeux comme ça, puisqu'on a vu des zombicides, on a vu des zombies in my pocket, on a vu quoi d'autre, Walking Dead qui est sorti, et puis on se retrouve avec City of Horror avec évidemment des contextes différents, mais quelle est la position d'un éditeur par rapport à ça?
Bien, la position d'un éditeur, c'est un éditeur qui a eu Seven Wonders et qui a perdu plein de temps parce que ce jeu a été signé maintenant depuis plus de 3 ans. Et ça fait un sacré bout de temps qu'il devait sortir. Et comme chez nous, les jeux sortent quand ils sont prêts et non pas parce que c'est le moment, eh bien, le jeu est sorti quand il était prêt. Mais il s'avère qu'il y a une vague zombie en ce moment, donc je suis ravi si c'est nous qui l'avons lancé.
Absolument.
Toute modestie.
Ok, donc ça s'appelle City of Horror et l'auteur n'est pas inconnu. Il est encore moins côté jeu de zombie, puisqu'en fait, il était l'auteur d'un jeu qui s'appelle Zombie, qui était à l'époque édité chez Asmodée, si je ne me trompe.
Oui, ça s'appelait Zombie avec le sous-titre La Blonde, la Brute et le Truand. Et le premier zombie nous avait bien plu à l'époque, on avait bien rigolé. Et on savait que le jeu n'était plus édité, que plein de gens le regrettaient, souhaitaient y jouer. Et donc, on a su qu'Asmodée ne souhaitait pas continuer, enfin se lancer une nouvelle aventure de ce côté-là. Donc on a contacté l'auteur qui a accepté de signer avec nous, mais non pas pour refaire le jeu, même au début on parlait d'une version 2 en modifiant 2-3 trucs, mais en fait c'est un nouveau jeu. On a gardé un mécanisme du jeu d'avant qui est cette histoire de fuite, où on choisit où l'on va fuir. L'histoire de la blonde qui va rajouter un zombie, parce qu'il ne faut pas rigoler, les blondes ça fait du bruit, mais après ça le jeu a quand même beaucoup beaucoup changé.
Donc l'auteur, c'est Nicolas Normandon, qui avait sorti ce jeu-là, qui était vraiment dans le stéréotype du film de zombies avec, dans le centre commercial. Avec, on essayait tous de se réfugier, et évidemment, les zombies arrivent de plus en plus. Donc ça, c'est cette mécanique qu'on retrouve, mais le jeu est vraiment différent, il n'y a pas de filiation.
Alors oui, il y a quand même une filiation, on va retrouver un ou deux mécanismes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé d'être encore plus proche des stéréotypes de films de zombies, à savoir que dans le premier jeu, le jeu originel, tout le monde avait la même équipe, avec un mec qui avait un flingue, une blonde, etc., etc. Ici, on a vraiment voulu casser ça, et on a fait un jeu qui se veut non pas déséquilibré, mais tout le monde n'a pas la même équipe au départ. Tout le monde va se retrouver avec une équipe de personnages qui peuvent être différents. Par exemple, tu vas pouvoir avoir le petit vieux, le rasta et la femme enceinte. Et moi, je vais pouvoir commencer avec le cuisinier, le prêtre et la petite étudiante asiatique.
Et qu'est-ce qui détermine cette distribution-là?
Le hasard, mon ami, le hasard. Par contre, comme les équipes ne sont pas les mêmes au départ, le jeu se veut quand même équilibré, sachant que chaque personnage va rapporter des points de victoire à la fin, s'il est encore en vie. Mais plus un personnage rapporte de points de victoire, moins il est puissant. Donc des personnages très puissants qui ont un gros pouvoir, eux, vont rapporter peu de points de victoire, il y a de fortes chances qu'ils survivent, tandis que les autres, pas. Certains même apportent des malus. Alors, le petit vieux ou la petite vieille valent beaucoup de points de victoire, je crois que c'est 5 ou 6, enfin je ne sais plus de tête. Mais en attendant, ils ont des défauts. Alors, le petit vieux n'entend rien, il ne peut jamais voter, et la petite vieille, elle a un déambulateur, alors elle ne peut pas se déplacer.
Parce que le but du jeu, c'est finalement d'avoir les membres de son équipe qui restent vivants à la fin de la partie?
Exactement. Alors le but du jeu, c'est d'avoir des points de victoire. Comment a-t-on ces points de victoire? Chaque membre de l'équipe survivant va marquer un nombre de points indiqué sur sa carte. Mais pour que ce personnage puisse embarquer dans l'hélicoptère de l'armée qui vient nous chercher à la fin. Parce que le pitch est quand même qu'on va essayer de s'échapper vers 4h du matin. Il faudra s'injecter une dose d'antidote. Et si tu n'as pas d'antidote, tu ne grimpes pas dans l'hélicoptère, tu ne marques pas les points de victoire. Par contre, une autre chose va permettre de scorer des points, ce sont les canettes, boîtes de conserve, merci. Et donc, ces boîtes de conserve vont rapporter des points de victoire. Si on a au moins un survivant, les boîtes de conserve rapporteront des points de victoire parce que tout le monde s'y met lorsqu'il y a un apocalypse zombie, de la bouffe, c'est important.
Alors, je suis face à une version géante de City of Horror qui vient d'être faite. On retrouve différents éléments qu'on va peut-être décrire pour finalement continuer l'explication du jeu. Donc, on a une équipe, on a des personnages qui apparemment sont placés dans différents bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme lieu de déplacement pour essayer de protéger son équipe ?
On est en ville, on était dans une petite ville, on va dire aux États-Unis. On voyait l'invasion zombie à la télévision, on voyait que ça grandissait, que ça grandissait. Et puis là, on s'est dit, on va quand même se méfier, on va surveiller les alentours. Deux personnes sont grimpées au haut du château d'eau et observent les alentours. Et là, hop, c'est la panique, on voit qu'une horde de zombies arrive en ville. Qu'est-ce que l'on fait ? On prévient les secours. Et les secours vont arriver uniquement à 4h du matin. L'hélicoptère viendra nous extraire de la ville qui va commencer à petit à petit être envahie de zombies. Seulement voilà, il est minuit. Donc il va falloir tenir à toutes les heures, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, jusque 4h du matin. Et les personnages qui auront survécu après ces 4 longues, longues heures vont pouvoir s'échapper. Alors, à quoi ressemble la ville ? On a un gros carrefour central dans lequel il y a eu un accident. D'ailleurs, il y a un camion de canettes, justement. Un camion de boîtes de conserve qui s'est renversé.
Incroyable !
Mais oui, donc on va pouvoir aller chercher des boîtes de conserve au centre. On a une église dans laquelle se sont réfugiés certains. D'autres se sont enfuis à l'hôpital, peut-être espérant y trouver quelques antidotes. Certains sont à la banque, peut-être un peu avides d'argent, mais ça ne sert à rien, l'argent. Hein. Rien ne vaut une bonne vieille boîte de conserve. Et enfin, les plus malins se sont mis à l'armurerie pour aller chercher de quoi se défendre. Donc, il y a un château d'eau aussi, je vous ai parlé du château d'eau, d'où l'on guette l'invasion de zombies. Voilà, maintenant le carrefour au centre nous sert un peu à stocker les cartes de matériel, les antidotes et la horde de zombies qui est plus ou moins contenue. À chaque heure de jeu, on va dévoiler une carte qui va nous indiquer où arrivent les zombies un petit peu partout. Mais cette carte, personne ne va la voir, sauf ceux qui sont en haut du château d'eau. Parce qu'eux, ils voient de loin, ils se disent « Ouh là là, les zombies ont l'air de se diriger par là, par là, par là ». Donc les joueurs qui possèdent des personnages en haut du château d'eau vont, eux, pouvoir prendre connaissance de cette carte. Puis chaque joueur va choisir une destination en secret. Nous avons 6 cartes destination qui correspondent aux divers lieux du jeu, dont le carrefour et le château d'eau. Tout le monde va dévoiler sa carte en même temps et on va regarder d'abord où vont les zombies. Donc on va dire, tiens, voilà, 2 zombies de plus à l'église, 1 zombie de plus à l'armurerie, 1 zombie au croisement, etc. etc. Et forcément, la configuration du jeu change. Il y a des endroits où il y a beaucoup de zombies. Puis on va bouger selon ce que l'on a annoncé. Par exemple, moi j'ai décrété que tel personnage allait au carrefour. Tu as décrété que l'un de tes personnages quittait l'église pour aller à l'armurerie.
Ça tombe bien, il y a une place de libre.
Et le joueur suivant, c'est-à-dire le joueur jaune, avait décidé lui aussi d'aller à l'armurerie. Manque de bol, c'est vide. Il doit donc se rendre au carrefour.
Ça, c'est plein.
Oui, l'armurerie est pleine, pardon. Elle est vide de place libre. Bon. Et voilà, donc tout le monde va faire son petit déplacement. Et après ça, on va résoudre les lieux un par un. Et on va voir ce qui s'y passe. À noter qu'en plus des zombies qui sont arrivés à droite, à gauche, un peu partout dans la ville, quand même, il y a du positif. Un avion sera venu pour parachuter quelques antidotes et quelques cartes de matériel dans les lieux.
Donc ça, tu viens de déposer justement des jetons antidotes dans les différents lieux. Et ça, c'est déterminé de manière aléatoire aussi ou...
Voilà, c'est sur la carte que l'on a retournée qui indique où arrivent les zombies ce tour-ci, est indiqué aussi où vont être parachutées les aides que l'on va recevoir sous forme de cartes, sous forme d'antidotes. On s'est tous déplacés et ensuite, comme tu peux le voir, là on a un petit rappel de jeu, on va résoudre les lieux de 1 à 6. Donc on va commencer par le lieu numéro 1 qui n'est autre que le château d'eau. On va vérifier s'il y a plus que 4 zombies. Tu vois, il y a une condition qui est indiquée en vert. Il n'y a pas plus que 4 zombies. Très bien, le château d'eau reste en place. Ouf. Après, on va passer à la banque. D'abord, on va faire le pouvoir de la banque. Bon, ici, on peut défausser une carte pour faire changer une roue au centre, roue sur laquelle je reviendrai plus tard. Et enfin, y a-t-il plus que 3 zombies ? Non, tout va bien. Par contre, maintenant, on va aller à l'armurerie. Et là, à l'armurerie, on va s'amuser à voir. Y a-t-il plus que 3 zombies ? Ah bah oui, il y en a 5. Et ben donc maintenant quelqu'un doit être dévoré.
D'accord.
Ah oui, mais qui ? Et c'est là où va intervenir le sel du jeu, qui est la négociation. Alors, regardons, nous avons un personnage rouge, un personnage bleu, et deux personnages mauves. Ah, donc le mauve a deux voix. Forcément, on va se mettre d'accord, le mauve va dire, bah, écoutez, moi les gars, je suis tranquille, j'ai deux personnages, hein, si vous êtes contre moi, je vote contre vous, donc il y aura de l'égalité, bon, je suis pas trop en position, peut-être que l'un de vous deux va peut-être plutôt préférer s'allier avec moi. Ah, et là, le joueur rouge, qui a la femme enceinte, va dire « Ok, je m'allie avec toi, on jette la petite fille en dehors de l'armurerie. »
Très moral.
C'est quand même un jeu où des enfants peuvent se faire dévorer. Voilà. « On jette la petite fille en dehors de l'armurerie et elle se fait dévorer par les zombies. Comme ça, on est tranquille ce tour-ci. Mm-hmm. » Ok, et là, le joueur qui joue la petite fille va dire « Oui, mais les gars, attendez, j'utilise le pouvoir de la petite fille et je me cache. Ah, je ne suis plus là.
Dommage.
Bon, ben, je vous laisse vous mettre d'accord maintenant pour qui se fait dévorer. Ah. » Et là, les deux joueurs, enfin les deux personnages mauves se mettent à regarder le personnage rouge qui va dire « Oui, mais non, mais attendez, j'ai un shotgun, boum, et je bute deux zombies. Et j'ai un flingue, boum, et je bute un zombie. Ah, il n'y a plus que deux zombies. Il fallait trois pour se faire dévorer. Tout va bien. » Mais après, tout peut rentrer en ligne de compte dans la tractation, dans la négociation. Je te passe une carte si tu butes un zombie. Oui, mais d'accord, mais tu me passes un antidote. Ouais, on réglera ça après à l'église, parce qu'à l'église aussi, c'est bourré de zombies. Et voilà. Donc, c'est un jeu de négociation qui a cet avantage, c'est qu'on peut jouer un jeu de négociation uniquement à trois joueurs. D'habitude, quand on joue un jeu de négociation à trois joueurs, c'est deux contre un, boum, c'est terminé. Et puis, le tour d'après, on est fâché. Enfin, là aussi, on sera fâché après. Hein. Mais donc, là, ce qui est bien, c'est qu'on a 5-6 lieux dans lesquels il va falloir que l'on négocie. Donc, peut-être qu'on va être d'accord là-bas, pas d'accord ici, puis d'accord là, puis après, c'est vous qui serez d'accord là-bas. Donc, c'est un jeu de négociation qui marche à trois, vu que c'est plein de petites négociations qui s'enchaînent. On va donc résoudre ainsi chaque lieu. Chaque lieu a des pouvoirs permettant de rendre les personnages en forme ou fatigués. Ah oui, c'est quoi cette histoire de personnages fatigués ? Je viens quand même. Tous nos personnages sont recto verso, nos cartes de personnages. Et quand on utilise le pouvoir d'un personnage, il est fatigué. On le retourne côté rouge. Il vaudra moins de points de victoire. Bien souvent, il aura perdu son pouvoir, mais il nous aura permis souvent de nous sortir d'un mauvais pas. En allant un petit peu prier à l'église, hop, il peut se remettre du bon côté. C'est-il pas magique, mon brave monsieur ?
Ça vaut la foi.
Voilà. Et puis au centre se trouve le carrefour. Et au carrefour, là, on ne va pas voter pour la personne qui se fait dévorer. Au centre, pour désigner celui qui se fait dévorer, en fait, il y a une roue de couleur. Là, par exemple, tu vois que c'est le joueur jaune qui se ferait dévorer par le maître des zombies. Et là, bah, a priori, aïe aïe aïe, pas de bol. Sauf que si le joueur jaune n'est pas là, la roue avance toute seule. C'est le joueur orange qui se fait dévorer. Ah, il n'est pas là. C'est le joueur vert. Ah, le joueur vert a des personnages. Voilà. Et libre au joueur vert de choisir celui qui se fait dévorer.
Et donc, au centre, on a effectivement ces fameuses boîtes de conserve. Donc, là aussi, à un moment, on les ramasse. Ça, c'est le pouvoir du lieu.
C'est le pouvoir du centre. Donc, avant de voir qui se fait dévorer au centre, parce qu'avant de faire l'aspect négatif d'un lieu, on fait l'aspect positif. Au centre, on se rend compte que l'on peut défausser une carte pour recevoir une boîte de conserve. Boîte de conserve numérotée de 0 à 3. La plupart, c'est des 1 et des 2. Il y a juste un 0 et un 3 qui se baladent dedans. Et voilà, la boîte de 2, bah, c'est probablement de la bouffe pour chien. Et c'est super bien, la bouffe pour chien, quand il y a un apocalypse zombie. On mangerait n'importe quoi, monsieur.
Donc là, on a fait le tour de la mécanique globale. Hein. Finalement, c'est pour combien de joueurs ?
Alors, c'est un jeu qui se joue sans problème de 3 à 6 joueurs.
Quand tu dis sans problème, ça veut dire que ça a été travaillé pour que ce soit équilibré et on ne va pas mettre 1 parce que ça se vendrait mieux.
Non, 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 non. C'est vraiment de 3 à 6 joueurs et le jeu garde tout son intérêt de 3 à 6 joueurs. Tu ne te sens pas à un moment, ouais, c'est plus creux parce qu'on est trop nombreux ou on n'est pas assez nombreux. Non, non, non. Ça reste tendu dans tous les cas. La seule différence, ça va être au setup, à la mise en place. On va se rendre compte que moins on est de joueurs, plus on a de personnages à protéger. Et plus on a de petites cartes qui vont nous aider au point de vue armes, que dis-je encore, grenades, possibilité de se cacher, connaissance d'une sortie de secours dans la ville, etc., etc. Parce que toutes ces cartes spéciales vont nous permettre d'utiliser des petits pouvoirs, un peu comme le pouvoir des personnages. On peut regarder quelques-uns, si tu veux, pour voir un peu ce qu'ils font. La femme au foyer a une magnifique ombrelle, tu la reconnais peut-être, elle ressemble à un personnage de série télé, je crois. Allez, Desperate Housewives, voilà, d'accord. Donc on a une dame qui ressemble fort à Bray Van de Kamp,
d'accord.
Et donc elle a un parapluie, et donc bah, elle n'hésitera pas à s'en servir pour nous débarrasser de deux zombies, mm-hmm. Elle fait du parapluie jutsu. La maman elle a un rouleau à pâtisserie. Quand elle veut rentrer dans un lieu, on ne dit pas non à la maman. Ok, la maman, elle a une place de plus dans un lieu. Mais une seule fois pendant la partie. Parce qu'après, elle est retournée. Hein.
Voilà. Elle peut retourner à l'église. Pour...
Elle pourrait retourner à l'église se reposer. Le Rasta, lui, il fume des trucs bizarres. Donc, il voit un petit peu le futur. C'est un peu comme s'il était en haut du château d'eau. Donc, il peut dire où vont arriver les zombies.
D'accord.
Voilà. Le voleur, bah, il peut piquer une carte à un autre joueur. Voilà. Ah,
le prêtre.
Celui-là. Il ressemble peut-être à quelqu'un.
Un peu à un monsieur qui est mort et qui avait une tablette en main.
Ah oui, on dirait Steve Jobs. Oui, ah oui, on aurait dû mettre un zombie. Ben voilà, quand tu joues le businessman, eh bien, tu as moyen d'aller rechercher une carte de la défausse et de la recycler. Mm-hmm. Donc, tu veux dire, ouh, il a joué une carte super importante, j'aimerais bien la récupérer. Voilà, des petits pouvoirs de personnage. Je vais peut-être finir sur une carte qui est ma carte préférée. Le petit chat.
Oui, le petit chat.
On a un petit chat dans le jeu. Et c'est très pratique d'avoir la carte du petit chat. Parce qu'à un moment, si tu es vraiment assiégé par les zombies, toi, imagine, là, je suis à l'armurerie, c'est assiégé de zombies. Mon personnage va mourir parce qu'ils ont tous voté contre moi, ces enfoirés. Là, je dis, oui, mais attendez, j'ai un petit chat. Je sors le petit chat de mon sac, je le fais tourner. Miaou, 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 miaou. Je jette le petit chat et on tire une carte au hasard. Et là, c'est du pur hasard. Moi, il y a une composante de hasard dans le jeu. Et on regarde où va atterrir le petit chat. On retourne. Hop, oh, il a atterri à l'église. Et hop. Tous les zombies de l'armurerie vont à l'église. Bah oui, les zombies sont attirés par le son. Donc le chat s'étant cassé la figure, la patte, pardon, le nez, la truffe, je ne sais pas, la moustache, sur l'église, eh bien, il a fait du bruit. Tous les zombies vont donc...
Ils sont tous partis.
Voilà, et un jeu où on lance des chats ne peut pas être un mauvais jeu.
Non, un jeu où on mange des petites filles non plus. Nicolas Normandon avait l'expérience de ce jeu-là, enfin, pas de celui-là, mais avec Zombies. Quand vous avez décidé de collaborer, est-ce que lui avait déjà une idée ou c'est vraiment une collaboration main dans la main ?
Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Lui, au début, s'est dit, bon, c'est juste un retour du 1. Et on lui a dit, non, on veut tout à fait autre chose. Donc, il est venu vers nous avec des nouvelles idées. Et nous, on a ricoché avec d'autres idées. On a dit, oui, mais non, il faudrait d'autres monnaies d'échange que les personnages. Donc, c'est là où on a introduit les antidotes. Et puis, on s'est dit, ah oui, un antidote pour survivre. Oui, pour valider les points des personnages, c'est une bonne idée. Après, on s'est dit, oui, mais il faudra encore, dans ce cas-là, une autre monnaie d'échange pour pas que les antidotes deviennent plus importants que les personnages. C'est là où on a créé la bouffe. Et donc, tout ça a été créé de concert. Ça a vraiment été un travail d'équipe, de longs échanges avec Nicolas, qui même, d'ailleurs, des fois, est venu jusque Bruxelles pour passer plusieurs nuits à jouer, à manger des sushis et à faire des zombies, et jusqu'à ce que le jeu ait son format actuel, dont on n'est pas mécontent, je vous l'avoue.
Et donc, ça veut dire que le jeu, comme il a vécu avant, je vais arrêter de faire des parallèles hein, après, mais le jeu, comme il a vécu avant, en 2012, il n'aurait pas le même succès ou finalement, il ne colle pas à des jeux de l'ère du temps de 2012
Écoute, le monde du jeu, l'univers du jeu, en règle générale, a évolué. Je pense aussi que le niveau des jeux a beaucoup évolué. Les gens n'attendent pas la même chose d'un jeu il y a 30 ans, 20 ans et même il y a 10 ans, en fait. Hein. On est vraiment face à un renouveau du jeu de société, mais aussi... face à une plus grande attente de la part des joueurs en termes qualitatifs. Je pense que le premier zombie était très bon, j'ai bien aimé ce jeu. Il avait certains défauts, d'ailleurs que pas mal de joueurs ont pu pointer du doigt et ressentir, tout le monde ne l'a pas aimé. Je pense qu'ici, non seulement les défauts ont été gommés, mais comme c'est un autre jeu, c'est plutôt dur à dire, je pense que là, il y a eu une amélioration et qu'on est vraiment dans un zombie 2012. Ça reste un jeu d'enfoiré, comme on appelle ça chez nous, à savoir que tu commences la partie, tu as plein de copains autour de la table, quand tu as fini la partie, tu as un peu moins de copains, mais ça reste un jeu, il faut partir de ce postulat.
Et vous avez retravaillé avec Miguel Coimbra pour ce jeu-là.
Oui, Miguel qui nous a fait du très très bon boulot, on est très contents. On est sur une atmosphère qui est dark, hein, on ne sera pas tout à fait dans du Seven Wonders.
C'est pas flamboyant.
Ce n'est pas flamboyant gothique, mais là c'est dark, il fait nuit, il y a des bagnoles en feu, il y a des personnages, il y a des zombies qui hurlent, il y a de la tripe, il y a du boyau, il y a de l'hémoglobine sur les cartes, il y a des trucs en feu. Oui, c'est réaliste, c'est peut-être pas pour les enfants.
Non. Alors, que dire justement de cette vague zombie de 2012 c'est quoi? C'est l'approche de la fin du monde de décembre 2012. Comment est-ce qu'un éditeur comme vous, Repos Productions, réagit par rapport à justement une flambée de zombies dans tous les sens? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura, comme chaque année, il y a eu des années avec des jeunes, des japonais, il y a eu des années avec des vikings c'est quoi cette vague zombie d'un point de vue de producteur de jeux?
C'est une vague de mode. Comme toutes les modes, c'est étayé par un courant où on ne peut pas vraiment dire d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse mode zombie en BD qui avance. Enfin, les gens découvrent Walking Dead maintenant. Walking Dead, ça ne date pas d'il y a 6 mois, mais voilà, les gens découvrent Walking Dead. Les gens ont aussi découvert Walking Dead par la série télé. Il y a de plus en plus de films type Survivor qui se mettent à exister, où les gens se retrouvent en situation où ils doivent survivre. Je pense d'ailleurs à Survivor, une série télé. Enfin, oui. Voilà, donc il y a un petit peu plein de choses qui viennent alimenter ce courant-là. Et les jeux quelque part sont dans l'air du temps. Hein. Les jeux représentent aussi un petit peu notre société. Et les jeux, consciemment ou inconsciemment, peuvent aussi suivre ce genre de mode. Et donc, on est en plein dedans. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et comme je te l'ai dit, il y a plus de 3 ans que ce jeu est signé. Et donc, c'était... voilà.
Mais il n'y a pas la crainte de taper trop dans le mode geek, parce qu'on a quand même tendance à dire zombie, c'est quand même très, très geek. Je veux dire, la mère de famille ne va pas spécialement acheter un jeu de zombie.
De plus en plus de gens sont capables de dire ce qu'est un zombie. Parce que ils ont... Oui, mais voilà, il n'y a pas longtemps, les gens, tu leur parlais du Seigneur des Anneaux, et ils te disaient « Ah, le silence des agneaux !» Non, le Seigneur des Anneaux. Puis c'est sorti au cinéma, et tout d'un coup, les gens ont su « Ah, c'est quoi, des nains, des hobbits, des machins ?» Et la fantasy, maintenant, est un peu plus connue. Voilà, ici, on est sur du fantastique, série Z, série B, enfin, nos braves zombies qui volent des cerveaux. Eh bien, ça commence aussi un petit peu à se démocratiser, hein. Qui sait ?
Le zombie se démocratise. Bien, bon, ça c'est donc City of Horror. L'appeler City of Horror, ça c'est vraiment pour l'internationalisation, c'est pour pas trop cogiter sur des titres en fonction du pays.
On avait pensé à des Zombies 2, mais il y a plein de jeux qui s'appellent Zombies. On avait pensé à mettre Zombie dans le titre en disant on va mettre l'accent. Mais en fait, je pense que notre jeu voudrait presque être un peu une simulation de... Non, voilà, je pousse un peu, mais c'est plutôt axé sur la survie, sur la façon de négocier entre les personnages. Bon, les zombies sont un prétexte aux sales coups qu'on va se faire les uns les autres et au fait de se trouver en situation de difficulté de négociation. Donc, la cité de l'horreur, ça, voilà, c'est peut-être pas les zombies qui sont les plus dangereux, ça pourrait être vos coéquipiers.
On l'avait dit au niveau de la sortie Ghost Stories. Ghost Stories était un jeu d'ambiance, mais pour les fantômes, ça c'est un jeu d'ambiance pour les zombies.
Oui, je vous avoue que toute votre équipe ne survivra pas jusqu'à la fin.
Ok, donc ça, effectivement, grosse sortie pour Essen donc en octobre, nous sommes en septembre 2012. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la suite? On a eu l'occasion de regarder un petit peu avec Antoine Boza dernièrement, on sait qu'il y a des choses qui se préparent. Sur l'après Essen, il y a déjà des choses dans le pipe, comme on dit.
Oui, on a plusieurs choses sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. On est en train de travailler sur un Times of Family 2. Donc, avec des nouvelles propositions pour Times Up Family, qui est, ma foi, un Times Up qui a plutôt bien marché. On travaille aussi sur un jeu de Gaëtan Bojano et Alain Rivollet, qui est un party game pour gamers. C'est un jeu de réflexion, mais sympa, où on va pouvoir se creuser la tête à plusieurs en se fendant la poire si possible. Voilà, qui devrait arriver. En fait, on a beaucoup, beaucoup de choses dans les cartons. En février, il y a Rampage, le fameux Rampage, hein, qui se fait un petit peu attendre, mais c'est parce que toutes les...
Ça, c'est février, alors.
Voilà. Ouais, c'est février. Comme toutes
Nuremberg.
Les choses, ça a besoin de mijoter un petit peu pour arriver à maturation. Donc là, on a Rampage qui arrive. On a bien sûr des extensions de Seven Wonders qui restent tout à fait d'actualité. Et on a vraiment plein de choses qui arrivent. On a aussi un Panico Block de Roberto Fraga, un jeu où il va falloir donner de sa personne.
J'ai une petite question fil rouge. La fois passée, j'avais posé des questions sur le portage des jeux de société sur les plateformes digitales. 2012 est une année zombie, on l'a dit. C'est aussi une année crowdfunding, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître, du Kickstarter et du Ulule. Et on voit apparaître maintenant des jeux de société qui sont présentés sur des sites internet où on propose aux acheteurs, aux futurs clients, de directement mettre l'argent sur la table pour pouvoir financer la production du jeu. Et là, on se dit, quand on voit ça, on se dit, mais il y a un souci au niveau de la chaîne classique, à savoir un auteur, un éditeur, un distributeur, un magasin et finalement un client. Là, on a l'éditeur qui... Enfin, on n'a même pas l'éditeur, c'est l'auteur qui va directement chez le client. Comment réagit un éditeur de jeux de société par rapport à l'explosion de ce genre de pratique?
Alors, moi, je dirais que ce n'est pas tout à fait l'auteur qui va directement jusqu'au client, parce que c'est un auteur qui, dans ce cas-là, fait un travail d'édition. Parce qu'il faut quand même faire des graphismes, il faut quand même faire produire le jeu, il faut quand même gérer le matériel, il faut gérer la communication autour du jeu. Donc, il y a quand même un travail d'édition qui est fait. Mmh. Après, je pense que c'est plus la case distributeur et magasin qui se trouve sautée pour aller directement jusqu'au consommateur.
Parce que le jeu est envoyé par la poste, finalement.
Voilà. Écoute, je suis un petit peu sans opinion là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses très, très bien. Et c'est génial parce que sinon, c'est peut-être des projets qui n'auraient jamais vu le jour. Je pense aussi qu'il y a plein de glo-glo qui peuvent s'amuser à faire aussi n'importe quoi pour récupérer des sous et derrière fournir des choses pas très, très géniales. Là, ça veut dire aussi que tous les gens n'achètent vraiment que sur l'emballage. Hein. On n'a pas pu tester le jeu avant. C'est vraiment aller en aveugle. Donc, que va-t-il se passer à mon avis? Il y a des gens qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont bien faire les choses et qui vont finir par se faire un nom et qui, à mon avis, dans ce cas-là, deviendront à part entière des sociétés d'édition. Oui. Parce que, voilà, même si la démarche commercialisation est différente, et je pense qu'il y a aussi pas mal de consommateurs qui, à mon avis, seront un petit peu déçus. Enfin, je leur souhaite pas, hein, mais qui seront peut-être un petit peu déçus et qui vont se dire, bah, la prochaine fois, j'irai plutôt demander conseil à ma boutique du coin ou j'attendrai de tester ce jeu sur un salon pour être sûr que le jeu est bien. Donc voilà, on est un petit peu sans... Il va y avoir des bonnes expériences et des mauvaises expériences.
Ce n'est pas vu d'un mauvais œil, c'est ça que je veux dire.
Non, je ne vois pas ça du tout d'un mauvais œil. D'ailleurs, ça peut même permettre à certains projets de voir le jour, même chez nous. À l'heure actuelle, on a un gros dilemme, par exemple, vis-à-vis de White Moon. On a plusieurs demandes qui nous disent « Mais rééditer White Moon, on veut des boîtes. » Mais on ne sait pas si ça concerne uniquement 10 personnes, 100 personnes, ou si ça concerne effectivement 3000 personnes. De quoi faire un run de façon logique. Donc, toi, on est en pleine hésitation de dire oui, mais est-ce qu'on va tirer à nouveau le jeu ou pas? Ou est-ce qu'on va se retrouver avec 2500 boîtes sur les bras et qu'on ne va pas savoir vendre et qu'on aura produit à perte? Et bien, on se dit ben, peut-être qu'un projet à la Kickstart ou je ne sais quel fonds participatif comme ça pourrait dire ben, attendez, les gars, dites-nous qui est prêt à l'acheter et on voit si on le reproduit ou pas.
Mais donc, ce qui est étonnant, c'est de voir justement ce qu'on disait. Un auteur en herbe, on va dire, qui croit avoir créé un jeu merveilleux mais qu'il n'a pas vraiment testé, pourrait se dire je vais directement sur Kickstarter ou Ulule pour dire voilà, je vais le vendre, mais il ne va peut-être pas le vendre.
S'il a créé un jeu et qu'il ne l'a pas testé, déjà s'il arrive à le vendre, chapeau, et après je pense qu'il ne le vendra qu'une fois. Donc bon.
Pas avoir de retour. Bien, merci monsieur Comment.
Merci monsieur Baudret. Ah, attends, il y a d'autres choses qui arrivent.
Ah.
On n'a pas parlé. Ah. On a parlé des tablettes. Ouais. Il y a un super jeu qui va sortir. Peut-être que tu as entendu parler de Twin It.
J'en ai entendu parler.
Tu sais, c'est l'histoire de poster là, fait par Tom Vercheck où il faut retrouver des patates correspondantes avec des symboles. Eh bien, figure-toi qu'on va sortir ça sur iPad.
Mm-hmm. Je ne vais pas faire l'étonner là-dessus.
Non, c'est vrai. tu devrais un petit peu.
Quoi?
Mais voilà, donc ça a été développé par quelqu'un de génie qui nous a aidé pour la programmation. Voilà, voilà. Et ça va sortir avec notamment une partie du jeu qui est donc deux joueurs, où on est en versus, hein, l'un contre l'autre. On joue en même temps sur le même iPad. Bon, je pense qu'on va avoir quelques plaintes pour des iPads brisés, mais à mon avis, ça devrait bien marcher.
Et donc la logique ici, c'est effectivement, c'est plus qu'un portage d'un jeu de société sur une plateforme digitale, c'est une version digitale du jeu un peu revisitée.
Oui, totalement revisité. Là, le jeu a servi de base à la création de la version digitale, sur laquelle après on s'est lâché, comme tu le sais, avec Tom, ensemble, enfin, on en a parlé avec tous, et on a mis au point des nouveaux concepts de jeu qui n'existe pas sur le poster, parce que c'est simplement techniquement pas possible. Et voilà, et donc ce sera tout à fait complémentaire et très différent en même temps.
À suivre. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.